qui va être à la base de notre méditation ce matin. Il se trouve dans Colossiens, au chapitre 2, et je lirai des versets 4 jusqu'au verset 9. Ça inclut le verset 6 et 7 qui sera la base de notre méditation. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans votre foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Cet après-midi, les futurs baptisés, donc cet après-midi, ils sont baptisés, Nathanaël et Elisabeth, vont parler de leur expérience avec Dieu, qui est à la base de choix qu'ils ont faits pour passer dans les eaux du baptême. Vous verrez que chaque expérience est différente, hein, aussi différente de la mienne, différente de la vôtre. Mais il y a une particularité à l'expérience chrétienne qui consiste à prendre une décision. C'est-à-dire, ça ne vous tombe pas dessus. Devenir chrétien, c'est prendre une décision. C'est un engagement de la volonté, et vous le verrez apparaître dans les témoignages cet après-midi. Cet engagement consiste à soumettre notre volonté à celle de Dieu. Et c'est le sens du Notre Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, eh bien dans le Notre Père, vous avez cette soumission de notre volonté à la volonté de Dieu. Et c'est le sens du disciple. Le disciple qui suit son maître, il ne marche plus selon sa volonté, il marche selon la volonté de son maître. Alors que l'expérience, on ne va pas parler d'expérience aujourd'hui, mais le dimanche prochain, si Dieu le veut, l'expérience, qui est une expérience mystique, consiste à abandonner sa volonté. Voyez-vous, c'est pas soumettre sa volonté, c'est abandonner sa volonté. À l'intérieur d'une expérience spirituelle, qui privilégie surtout l'émotion, pas la volonté, et c'est un abandon. Et plus on abandonne sa volonté, plus on peut rentrer dans des expériences mystiques. Ce que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai cherché à comprendre les problèmes qui sont liés à cela. On abandonne la volonté, on abandonne toute critique par rapport au texte, on abandonne la vérité révélée au profit d'expériences qui nous font du bien, entre guillemets, malheureusement qui nous conduisent dans l'erreur. On voit que Jésus, dans sa manière de s'adresser aux disciples et à la foule, revient toujours aux Écritures. Il est écrit, hein, et en particulier avec les débats avec les chefs religieux. Et il pose des questions. Veux-tu être guéri ? Voyez-vous ? Il s'adresse à la personne, à sa volonté. Qu'est-ce que tu veux ? Voyez ? Il respecte l'intégrité de la personne, sa volonté et sa décision. Et là, on touche à la raison, qui n'est pas mauvaise. Hein. Bien sûr, en France, on a établi la raison comme une idole, mais on peut très bien utiliser la raison telle que Dieu nous l'a donnée, qui est une sagesse. La sagesse, selon les proverbes, Proverbe 7, par exemple, nous montre que la sagesse de Dieu, la raison de Dieu, est une collaboratrice, c'est appelé collaboratrice de Dieu. Elle a collaboré depuis la création jusqu'à la fin et collabore avec Dieu. Elle est parlée une collaboratrice. C'est pour ça d'ailleurs ce mot féminin, vous voyez, c'est pas la Trinité, c'est un mot féminin. Il a été utilisé comme l'idole, par exemple, l'idole de la raison, hein, comme Minerve ou d'autres en France, qui sont le reflet de cette idolâtrie d'une déesse. Mais la collaboratrice, c'est celle qui raisonnablement assiste Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est sagesse. Et sous l'exercice de la sagesse, eh bien, si c'est une idole, si on le transforme en idole, eh bien, on peut être sous la séduction de l'ennemi. Et c'est là que se trouvent les dangers dont on va parler quand on va parler de l'expérience. Mais aujourd'hui, on va parler de Christ. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est de se réclamer d'un Christ et d'une spiritualité qui ne correspond pas aux données bibliques. Ici, nous avons vu que l'apôtre dit je suis content de ce qui se passe chez vous, les Colossiens, du bon ordre qui règne parmi vous, la solidité de votre foi en Christ, et comme vous avez reçu le Christ, marchez en lui. Donc il n'y a pas simplement le fait de le recevoir, le Christ, et quel Christ, on va parler de quel Christ on doit recevoir, parce que des Christs, il y en a beaucoup. Christ, ça veut dire « oint ». Messie ou un. Et dans toutes les religions, il y a des ouins, il y a des Christs. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible parle de tous les Christs qui sont des antichrists. Il y en a énormément. Dans toutes les croyances, il y a des l'onction divine qui est sur quelqu'un, que ce soit Mahomet ou autre. Voilà, ce sont des ouins. Donc, il faut savoir de quel Christ on parle. Quel est le Christ ici pour nous? C'est Jésus-Christ. Jésus qui est venu et qui a reçu l'onction pour exercer son ministère. Alors, soit que l'on ait un Christ et une spiritualité bien en delà de la dimension complète, parce que là, on voit qu'il y a une dimension qui est mentionnée, là, qui est extraordinaire pour Christ. Il est au-dessus de toute puissance, il est pleinement, toute la divinité est pleinement en lui, il est le chef de toute principauté, de tout pouvoir, vous voyez. Donc, même si on est en dessous de cette compréhension, de cette plénitude de la divinité de Christ, puisque Colossiens utilise les mots rempli, plénitude, pleinement, qui sont très fréquents, eh bien, c'est moins grave que d'avoir un Christ qui est une déviation. C'est moins grave d'avoir un Christ où on ne connaît pas toute cette plénitude, d'ailleurs on la connaîtra que quand on le verra face à face, on pourra être séduit, je dirais, par cette gloire qu'il représente. Mais c'est moins grave de ne pas connaître tout ça que d'avoir une spiritualité, un Christ qui est dévié de ce qui nous est enseigné dans la parole, c'est-à-dire un faux Christ qui ne correspond pas à la dimension biblique qui nous en est donnée. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une mauvaise compréhension de Christ, sur ce qu'on appelle une vision de Christ, un paradigme, un schéma de pensée, c'est plus difficile d'en sortir que de ne pas en avoir. C'est pour ça que je dis de ne pas tout avoir. On peut marcher en lui, comme le dit l'apôtre, pour le connaître, mais d'en avoir un faux, c'est très très difficile de revenir en arrière. Bien sûr, c'est pas impossible. Par exemple, ceux qui sont musulmans et qui croient dans l'onction de Mahomet, qui croient comme être en révélation de Dieu, etc., c'est plus difficile pour eux, sauf quand il y a une vision de Jésus, c'est ce qui se passe. Quand Dieu veut vraiment les sauver, il fait carrément une vision, il apparaît. Et là, bien sûr, ceux qui cherchent, ils l'acceptent. Mais si c'est par le raisonnement, c'est très difficile, parce que les gens s'accrochent, Ils s'accrochent au fait que, pour eux, Jésus ne peut pas être le fils de Dieu. Et donc, vous tombez toujours sur une difficulté de réaliser que la parole de Dieu va mettre en cause leur pensée. Mais celui qui ne croit en rien, c'est plus facile, puisque vous semez dans un terrain qui est vierge. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'éviter que nous tombions dans des faux Christ et pas dans des de cette spiritualité aussi qui est fausse, qui est liée au faux Christ. Luther qui est le réformateur, qui est le premier qui s'est exprimé sur la parole de Dieu, il dit « La véritable croyance n'implique pas seulement le fait de croire en Christ, mais également de croire ce que Christ est. » L'identité de Christ, l'être de Christ. Cette pensée semble avoir été formulée pour notre temps, parce qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui disent croire en Christ, et même des chrétiens évangéliques, et combien d'entre elles sont en mesure de définir qui est ce Christ en qui elles croient. Voyez, si ce matin je faisais l'expérience devant vous, vous demandiez à chacun quel est le Christ auquel tu crois. À une époque, on avait le credo, hein, c'est-à-dire le symbole des apôtres, hein, qu'on apprenait par cœur. Aujourd'hui, on le récite pratiquement plus jamais. Il y a le Notre Père, bon, qui aide aussi à savoir qui est Christ, etc. Mais plus ça va, d'ailleurs, Michel, mon épouse, qui 25 ans enseignait la culture biblique, eh bien, s'aperçut petit à petit que ça se dégrade au point que les gens connaissent même plus leur Bible, mais encore moins qui est Christ, hein, alors qu'ils sont chrétiens. Ouais. Donc, est-ce que nous, on va suivre cette pente, ou est-ce que on va effectivement savoir définir qui est le Christ auquel on croit? C'est ça le message de ce matin. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Il dit « Je vois la solidité d'autrefois, mais soyez enracinés pour demeurer dans cette foi. » Parce qu'il y a un danger. Si l'apôtre dit cela, c'est qu'il y a un danger de pouvoir s'écarter de cette foi dans le Christ tel qu'il a été annoncé par les apôtres et par l'Évangile. Si les personnes qui définissent le Christ croient que ça couvre toute la définition de la Bible, qui est la norme de la foi, je voudrais, au travers de ce message, dissiper une fumée, une sorte de fumée qui se développe autour de Jésus-Christ et de l'expérience spirituelle, pour revenir au fondement de la foi. Par exemple, vous voyez un petit peu plus loin dans le passage des Colossiens, toujours au chapitre 2, verset 18, il dit que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, etc. etc. Voilà. Et nous, avec Michel, on a vu bien que ce culte des anges s'est développé aux États-Unis à une vitesse grand V depuis quelques années, alors que justement, c'est une tentation, hein, qui déjà était présente à l'époque des Colossiens, et qui est un danger de modifier notre vision de Christ, d'aller vers un culte des anges. Si quelqu'un le connaît depuis plusieurs années, qui ont été baptisés depuis plusieurs années, eh bien, ne vous arrêtez pas, continuez à chercher. C'est pour ça aussi que je propose l'étude de la théologie du royaume de Dieu, parce que ça enracine notre foi dans le véritable Christ, celui qui a été révélé dans sa parole. Alors venons-en à ce Christ qui est révélé dans sa parole dans la dimension biblique. Ce qui est dit dans l'Épître aux Colossiens, on se rend compte immédiatement que la figure de Christ a une dimension qui éclipse les plus hauts dignitaires, que ce soit sur terre, dans ce monde, dans les personnages historiques, que dans le ciel. À lui s'appliquent les paroles d'Ésaïe dans Ésaïe 46, verset 5. « À qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblable. » Le Christ dont on parle ne peut être semblable à personne. Il est totalement différent de toutes les dignités que nous connaissons. Alors j'aimerais développer quatre éléments, quatre dimensions bibliques de Christ. D'abord son identité, son être, ensuite sa mission, son rang et son exemple. Commençons par son être, ce qu'on appelle son identité ou son existence. Tout d'abord, Christ est Dieu. Il est Dieu Il est un avec le Père, c'est-à-dire consubstantiel au Père, c'est la définition de la Trinité, c'est-à-dire de la même substance que le Père. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans la pensée chrétienne, dans la pensée biblique, qui est un, mais il y a trois personnes, trois soutiens, trois fondements, si vous voulez, trois personnes, mais le mot personne n'est pas... l'origine dans le grec, c'est plutôt hypostase, c'est-à-dire fondement de ce Père, avec trois personnes qui sont égales entre elles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'apôtre, Colossiens, nous dit, chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible ». Donc Jésus est l'image, le Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'il exprime exactement dans son être ce que Dieu est. Dans Jean, chapitre 14, verset 9, Jean va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père » dans les paroles de Jésus. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc il y a une identité parfaite entre le Père et le Fils qui sont tous les deux Dieu. Je pense que Jean veut dire la même chose quand il écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus est la parole. Ce Christ est parfaitement un avec le Père dans la divinité. Tout ce que le Père est, il l'est également. C'est pourquoi dans la même épître, Paul peut écrire, en se référant à Christ dans l'incarnation, quand il est venu sur terre, comme un bébé qui a grandi et a fait sa mission, dans sa condition présente dans la gloire, il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ce mot corporellement est absolument capital, parce que dans les Christs des Grecs, donc des barbares, il y avait à l'époque que les Grecs et les Juifs, les Grecs voulaient dire les païens, il y avait l'idée que, en fait, il y avait une certaine divinité qui transcendait le monde visible, alors que chez les Juifs, il y avait l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu vient dans un corps. Et les Grecs, ils ne peuvent pas supporter le corps, parce que pour eux, il est l'origine de tous les maux. Et quand l'apôtre Paul a parlé de la résurrection, ils ont dit ça peut pas, c'est pas possible que ce soit Dieu, puisque le corps, il faut s'en débarrasser et pas l'incarner, hein, comme Jésus, comme le Christ l'a fait. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas accéder à la foi. Ils pouvaient accéder à cette religion. Et ils ont arrêté le débat avec Paul. Et Paul s'en est bien tiré. Parfois, il était lapidé à cause de ça. En tout cas, ils ont arrêté la conversation en disant « On ne veut plus de cette religion, qui est une religion qui n'est pas du tout celle que nous pouvons accepter. » Voilà, donc l'apôtre Paul nous définit bien le Christ comme étant consubstantiel au Père, il est Dieu, et cette dimension biblique de Jésus doit être fortement rappelée aujourd'hui, à l'heure où les influences des théories occultes, donc secrètes, etc., cherchent à réduire le Christ juste à une émanation du divin, exactement comme l'islam, une émanation du divin, ou encore un homme en qui le divin a fait surface, il a affleuré, mais il a quitté à la croix, et le divin a quitté, et c'est un autre corps qui a souffert à la croix, mais c'est pas le Christ, c'est pas Jésus. Donc ces conceptions sont très très répandues aujourd'hui, en particulier dans le Nouvel Âge, on parle de la religion du Nouvel Âge, alors que la Bible dit bien qu'il est ressuscité d'entre les morts et s'est incarné dans un corps, il a vécu dans un corps comme nous, etc. Donc cette croyance, cette foi, il faut vraiment qu'elle soit enracinée. La deuxième chose, c'est que il est la deuxième personne de la Trinité. Donc il est Dieu, et ensuite après, il fait partie de ces trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Bien que Jésus soit un avec le Père, dans son essence, un seul et même Dieu, il est distinct du Père. Il est distinct. Dans la prière sacerdotale, il pouvait dire « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, eh bien, soit aussi avec moi. Et quand quelqu'un peut dire « je », c'est-à-dire qu'il est une personne distincte. Il est doué d'un individu qui est distinct de l'autre. C'est pourquoi nous disons que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. L'apôtre Paul reconnaît ces distinctions. Il dit « Rendez grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il distingue le Père et le Fils dans la question de l'unité divine. Et ensuite, la troisième personne, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, qui est nommé au verset 8 de ce même chapitre. Cette dimension du Christ est importante parce qu'il y a une forte tendance aujourd'hui à dépersonnaliser Jésus-Christ, de nous présenter un Christ sans visage, un Christ impersonnel, anonyme, presque incognito, qui s'identifierait avec les pauvres, les déshérités, les opprimés, les marginaux. Cette vue de Jésus-Christ est très répandue dans l'œcuménisme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Elle repose en partie sur la fausse interprétation de Matthieu 25, qui dit que toutes les fois que vous avez fait ces choses, donner à manger, à boire, à recueillir, à revêtir, à visiter un malade, un prisonnier, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais c'est faux d'interpréter ça à tous les hommes. Il parlait des siens, de ceux qui lui appartiennent. Voyez-vous ? Donc, vous voyez, une simple interprétation qui est décalée par rapport à ce que veut dire le texte peut vous amener à croire en un faux Christ et à diminuer qui il est réellement. La troisième chose que je voudrais relever, c'est les relations. La relation entre le Père et le Fils. Entre ces trois personnes, il y a une relation. Cette relation, eh bien, est tout à fait déterminante quand on voit comment le Fils était soumis au Père et combien dans sa prière avec le Père, et je recherchais tout le temps, tous les soirs, il passait du temps avec le Père, il prenait, disons, les directives du Père pour les guérisons, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Donc on voit que cette dimension relationnelle entre le Père et le Fils est absolument fondamentale. Et c'est un exemple pour nous, qui ne sommes pas plus grands que Jésus, bien sûr, et qui avons besoin de cette relation en permanence pour faire les choses que nous avons à faire en relation de soumission avec Christ. Amen. Donc c'est un exemple de relationnel, si vous voulez, qui est fantastique, qui nous est donné au travers de la vie de Jésus. Cette intersoumission, et quand dans Éphésiens 5, il est dit que nous devons être intersoumis, hein, les hommes et les femmes doivent être intersoumis. C'est pas l'homme qui doit soumettre la femme ou la femme doit être soumise, c'est que tous, on doit être intersoumis, entre hommes, femmes, entre responsables, leaders, etc. Vous voyez, c'est l'intersoumission. Cette intersoumission commence entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait rien sans que ça soit autorisé par le Père parce qu'il était soumis au Père. Non pas qu'il était obligé, mais il s'est soumis volontairement au Père parce qu'il était dépendant de lui dans sa condition humaine. Donc cette notion d'intersoumission relationnelle de vis-à-vis, de véritable vis-à-vis, hein, c'est ce qu'on voit dans ce Christ qui nous est présenté dans la parole de Dieu. Et enfin, il est à l'origine de tout. Origine de toute création, origine de toute chose. Ce Christ, dans la culture moderne, même en Occident, incline de plus en plus vers un panthéisme. Alors c'est quoi le panthéisme? C'est encore du grec. Hein. Pan, c'est tout. Tout est Dieu. Tout est Dieu. Donc c'est une sorte d'animisme. Hein. On voit la divinité partout, dans les chaises, dans les rochers, dans les machins. C'est pour ça, dans le Nouvel Âge, vous voyez maintenant voilà, que tout ça, c'est des cristaux, c'est rempli de pouvoir, etc. Vous voyez. Donc c'est une sorte de Christ impersonnel. Et il parle du Christ. Hein. Je parle toujours du Christ. Hein. On parle du Christ, mais c'est un Christ impersonnel. Un Christ qui se manifeste dans toute manifestation. Et c'est ce qu'on appelle le panthéisme, c'est l'adoration de la nature. Pour cette philosophie, Dieu et le monde ne sont pas distincts, c'est la même chose. Dieu et le monde, c'est pareil. Au lieu que Dieu soit personnel et vertical, c'est-à-dire transcendant, le tout autre, comme ça l'appelle C.S. Lewis et bien d'autres, eh bien, il fait partie de ce monde. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle immanent. C'est-à-dire, c'est au même niveau, c'est l'immanence. Vous voyez. Et on arrive à ce Christ immanent, aujourd'hui, que tout le monde peut saisir, chrétien ou pas. Vous voyez. Ce qui fait que le Christ, on le nivelle de ce qu'il est réellement, on le nivelle en le mettant à la portée de tous. Alors, c'est très démocratique, hein, okay, c'est, voilà, c'est rempli d'amour pour tout le monde. Vous voyez. Et c'est ça qui est, aujourd'hui aussi, va nous affecter si on n'est pas fondé sur qui est Christ, qui est. Et dans cette compréhension panthéiste de Christ, on appelle ça le Christ cosmique. Alors, si vous entendez Christ cosmique, que ce soit dans les conférences, dans les films, etc., c'est ça que ça veut dire, le Christ cosmique. Tout le monde a une partie du Christ cosmique en lui. Mais la dimension biblique est totalement à l'opposé. Colossiens dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Voilà, donc ce texte pose très nettement le fait que le Christ est à l'origine de toute création. Et moi, ce qui me fascine en tant que scientifique, en tout cas, je ne suis pas professeur en sciences, mais je m'intéresse beaucoup à la science, je vois que les découvertes qui sont faites aujourd'hui, simplement scientifiques, on fait tourner des accélérateurs de particules, etc., eh bien, ils sont en train de démontrer, ces physiciens, qu'en fait, c'est Christ qui est à l'origine. On arrive à démontrer l'existence de Dieu aujourd'hui. C'est absolument phénoménal. Quoi. Dans ces dernières découvertes, on arrive par l'observation, simplement, de montrer cette révélation où Christ est à l'origine de toute chose. Tout ce qui est créé, c'est Christ qui est à l'origine. Et quand on cherche, on retrouve l'origine. Okay, quand on est honnête et qu'on accepte de laisser parler les choses qu'on observe. Il est créateur et le but, il est l'alpha et l'oméga, il est l'origine et la fin de toute la création. Donc vous voyez, la création, on parle aussi du corps, eh bien c'est Christ. Christ, quand il est venu s'incarner, il était dans son élément, c'est ce qu'il a créé, sauf qu'il l'a transcendé, c'est-à-dire qu'il a donné une autre dimension, il a donné la dimension de la résurrection. Et quand nous, on est en Christ, eh bien, on fait participer aussi l'idée de la résurrection, c'est ce qu'on verra cet après-midi, avec ceux qui vont passer par les eaux du baptême, on participe à sa mort et à sa résurrection. Dès maintenant, on n'a pas besoin d'attendre la résurrection, elle est déjà là. Vous voyez, c'est ça qui est fantastique. Dans notre foi, nous sommes déjà ressuscités en lui. Alors la deuxième chose que je voudrais mettre en avant, un, c'est son identité, je viens d'en parler. Deux, c'est son faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ce Christ fait? C'est sa mission. Quand il est venu sur terre, il a reçu une mission du Père. Et il a fait ce qu'il devait faire en fonction de cette mission. Notre époque ne s'est pas fait faute d'utiliser la figure du Christ à des fins politiques. On l'a largement transformé. Dans l'aile la plus radicale de la théologie œcuménique, eh bien, on a parlé de révolution. Vous vous rappelez, en Amérique du Sud, c'est cette théologie de la révolution. Che Guevara, j'ai du mal à le dire. Che Guevara, etc. Voilà, c'était les grandes figures de cette révolution où on prenait Christ comme figure de révolutionnaire. Bien sûr, la présence du Seigneur au milieu des hommes corrompus, son enseignement, remettait en cause leur façon de vivre, révolutionnaire, si vous voulez. Mais de là à dire qu'il est l'apôtre de la révolution ou même de la violence, alors que de l'autre côté, on va parler de la non-violence comme Gandhi, par exemple. On va rapprocher Gandhi du Christ parce que voilà, c'est la figure de celui qui a fait dans l'action non-violente, il a transformé l'Inde, quoi. Donc vous voyez, on prend la figure du Christ pour l'une et l'autre suivant que ça arrange. En tout cas, ce n'est pas ainsi que les disciples de Jésus l'ont perçu, ni sa mission, ni son action. Même si l'Évangile, de par ses implications, a des répercussions sociales et politiques, on ne voit jamais les apôtres présenter Christ comme le révolutionnaire ou le protagoniste de la révolution, mais celui de la rédemption. Rédemption, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rachat, racheter. Il est venu non pas pour apporter la révolution, il est venu pour racheter l'homme de sa situation de péché. C'est le rachat. Et c'est pour ça qu'il est devenu l'agneau immolé au travers duquel il a porté nos péchés. La mission du Christ a une dimension verticale et non pas une dimension horizontale comme on a vu, révolutionnaire, etc. Je m'appelle au stand Sensier quand j'ai rencontré Michel à Paris. À l'époque, c'était 68, hein. 69, 70. Voilà, il défenestrait les gens, enfin, l'extrême droite défenestrait les gens de l'extrême gauche. Vous voyez des gens tombés par terre, voilà. C'était violent, hein. Entre la gauche et la droite, c'était tragique. Sauf que Michel, à un moment donné, il a failli y passer parce que quand vous passiez entre les deux, vous passiez au travers du rouleau compresseur. Donc on a, et moi qui tenais les stands bibliques, je me faisais gifler, voler en éclats, déchirer les bibles et tout ça, les stands y volaient, il fallait que je les remette en place. Enfin voilà, on a connu ces périodes-là. Et il présentait le Christ révolutionnaire. Il y avait Mouna avec sa limounade, voilà, qui prêchait le Christ révolutionnaire. Che Guevara, etc., avec son truc, etc. J'ai connu tout ça. Et ça fait partie, peut-être un peu moins maintenant, la période hippie et tout, qui présentait un Christ, on se prenait le Christ en question et on l'expliquait à sa façon. Donc je connais ces tendances-là qui aujourd'hui existent toujours, peut-être avec moins de problèmes dans les universités, parce que les universitaires, ils cherchent plutôt du boulot. Donc en fait, ils sont dans leurs études. Le rang. Quel est le rang de Christ ? Donc là, on a vu sa mission. Sa mission, c'est de racheter l'homme de la situation de péché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de péché. C'est ringard, c'est voilà, c'est du Moyen-Âge. On ne parlait pas de péché, vous voyez. Et dans le Christ cosmique, il n'est pas question de péché. Il est question de manque de connaissance, parce que vous n'avez pas la connaissance. Ce qu'on appelle la gnose. C'est pour ça que le gnosticisme monte. Parce que c'est la connaissance qui vous manque. Vous ne savez pas que Christ est en vous. Voilà. Tous, vous avez Christ en vous. Il suffit juste de le laisser développer. Vous voyez, c'est ça le Christ cosmique. Alors que le Christ de l'Évangile, c'est que vous êtes pécheurs. Nous, on est pécheurs. Et on reste pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, que nous louons notre Christ, Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons avoir la rédemption, le rachat, et devenir saints en lui. Amen. Le rang. Quel est le rang de Christ ? L'enseignement de l'Épître aux Colossiens nous empêche de prendre la moindre familiarité avec Jésus-Christ, car il insiste beaucoup sur le rang qu'il occupe dans le plan de Dieu. Dans une certaine démagogie, hein, des prédicateurs surtout, quand ils ont affaire à des auditoires de jeunes, tombent dans les travers pour présenter Jésus-Christ comme un camarade ou un copain, même un copain. Jésus, c'est un copain. Un copain voilà, avec qui on mange son pain. On lit des écrits, on entend des disques où Jésus est traité avec une familiarité absolument déconcertante. Mais même si pour nous sauver, Christ s'est abaissé, c'est pour un peu de temps. Il est devenu inférieur aux anges pour un peu de temps. Mais il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et s'il nous qualifie d'amis, il dit que nous sommes ses amis, c'est pas pour une raison, pour le traiter familièrement, avec familiarité. Ce que Paul nous enseigne, c'est que Dieu lui a donné la prééminence, c'est-à-dire la première, et le premier en tout. Et que Christ est au premier rang de toute chose. Premier rang de la création, premier rang de l'Église, il est le chef de l'Église, premier rang du peuple racheté, premier rang de la nouvelle création, du nouvel Adam, il est le premier, qui a créé cette nouvelle race dans laquelle nous pénétrons par la nouvelle naissance. Il est premier dans l'ordre de la résurrection. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus, c'est le premier. Nous, on va suivre, nous sommes ressuscités en lui. Il est premier en toute chose. Alors, quelle est l'application de ce Christ qui est premier? Eh bien, est-ce que nous le considérons et le traitons selon ce rang-là? C'est là la question. Est-ce que nous nous rappelons qu'il est la tête du corps de l'Église? Vous voyez, l'Église aujourd'hui est banalisée pour toutes sortes de raisons, parce que voilà, elle a failli, c'est rempli d'hommes qui sont humains, qui sont faillibles et tout ça. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faille rejeter cette Église dont lui est la tête? Vous voyez, réfléchissez un instant. C'est ça tout le risque qui est le nôtre de dégrader Christ de son rang, parce qu'il reste, il est la tête de l'Église. Vous dites amen? Voilà. Et je suis régulièrement en contact avec David Alonso, parce qu'il nous coach, il me coach, il me demande où j'en suis, etc. Et à la fin, j'ai dit, mais c'est fantastique que tu t'occupes de nous, tu as tellement de choses à faire. Elle dit, c'est parce que j'aime l'Église. Il dit, c'est pas avec vous, c'est avec tout le monde. Parce que je suis quelqu'un qui aime l'Église. Et là, on le sent, les choses, vous voyez. C'est que vous n'êtes pas préféré parce que, voilà, on lui a sauté dans l'œil, etc. Non. Il est dans une mission où, voilà, il coach ceux qui lui demandent, mais parce qu'il aime l'Église. Et j'aime bien cette réponse. Parce qu'en fait, c'est pas fait dans une attitude de privilège. C'est parce qu'il reconnaît que le rang de l'Église, c'est celui que Christ qui en est la tête. Il est le chef, l'autorité suprême. Donc est-ce que notre attitude dans l'Église, elle révèle ça, voyez-vous ? C'est vrai que les serviteurs restent des serviteurs. Mais n'empêche que Christ est la tête. Et à ce moment-là, il faut faire attention à la manière dont nous agissons dans l'Église. Celle dont nous révélons, si nous sommes membres de ce corps, est-ce que nous le traitons comme notre Seigneur? Et là, on verra cette question-là samedi dans la théologie de l'Ad. Elle est extrêmement bien expliquée. Le Kurios, le Seigneur. Et ça, c'est les premiers chrétiens païens qui l'ont mis en place. Et vous verrez un peu le développement qui est très intéressant là-dessus. Est-ce qu'il est notre Seigneur? Seigneur, ça veut dire qu'il règne. Seigneur, ça veut dire que je suis soumis au Seigneur, que je le reconnais comme Seigneur. À qui toute obéissance et toute déférence sont dues. C'est pas notre valet. C'est pas celui qui « Ah Seigneur, fais ça. » Vous voyez, parfois dans la prière, on peut se laisser aller à ça. Attention, c'est pas notre valet. C'est pas celui qui doit nous servir. Il nous a servi. Mais aujourd'hui, il est Seigneur et nous devons lui rendre toute la déférence qui lui est due. Il est Seigneur. Dernier point que je développerai, c'est son exemple. Donc son être, son faire, son rang, son exemple. À côté du Christ révolutionnaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le Christ hippie, non conformiste, marginal. Cela correspond à une mode aussi. Dans le reportage sur Thésée, vous connaissez Thésée? Non, je ne développe pas ce que c'est pas loin, enfin c'est en Bourgogne. Une jeune fille de 18 ans, catholique, non pratiquante, parce que vous n'avez pas besoin d'être pratiquante pour aller à Thésée, c'est des expériences spirituelles qu'on fait là-bas. Elle disait, surtout, on discute de tout et de rien, mais à en perdre haleine. On est généralement contre la violence, contre le nucléaire, contre la société bourgeoise et contre les valeurs établies. Voilà. Voilà le christianisme... de découverte qui a taisé. Il n'y a pas que ça, attention, je ne veux pas dégrader ce qui se passe là-bas, mais juste un exemple d'une personne qui témoigne de ce qu'elle vit là-bas. Ce n'est pas d'une façon abusive et simpliste que l'on peut ramener Jésus-Christ à la figure d'un marginal ou d'un non-conformiste. il faudrait déjà définir ce non-conformisme. S'il y a en Christ, je parle de sa vie terrestre quand il était avec les disciples, du non-conformisme, c'était du non-conformisme au mal. Il était non-conformiste au mal. Il avait en horreur le mal, okay, sous toutes ses formes. Ça, oui. Mais pas sur les formes de l'habillage des gens, etc. C'est sur le mal. S'il a été marginal, le Christ, c'est assurément dans sa perfection morale et dans sa sainteté qui était parfaite et qui le mettait à part de tout le reste des hommes. Et les hommes de son temps ont dit « cet homme est un prophète, au minimum », jusqu'à ce que Pierre dise « il est Christ, le Messie ». Ça, c'est une révélation. Il était tellement marginal dans ce domaine que les hommes méchants et pervers s'en sont débarrassés, crucifiés. Ils n'en pouvaient plus, les gens. Ceux qui sont un peu pervers, ceux qui sont voilà, pas bien disposés, en fait, ils disent crucifie-le, on n'en veut plus. Vous voyez, parce qu'il met en cause notre écart par rapport à cette marginalité au mal. Mais en ce qui concerne la fidélité aux Écritures, l'obéissance à la volonté de Dieu, il a été certainement l'homme le plus conformiste qu'on ait jamais connu. Conformiste dans le sens, il se conforme à la vérité révélée de la parole de Dieu. Paul nous rappelle dans Colossiens 1, verset 13, qu'on a lu, non, qui est là. Vous qui étiez morts, 1, verset 13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il nous révèle que le Fils de son amour, l'élu en qui Dieu prend plaisir, le bien-aimé en qui il a mis toute son affection, voilà la dimension biblique du Christ. Il faut noter que l'attitude de Jésus-Christ à l'égard des marginaux de son temps, qui étaient les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, etc., s'il ne les a pas repoussés ou traités comme des parias, cela ne voulait pas dire qu'il approuvait leur marginalité, qu'il se faisait marginal avec eux. Hein, il n'allait pas avec eux dans tout ce qu'il faisait. Mais il agissait selon l'amour de Dieu, qui ne repousse personne, surtout pas ceux que la société repousse et stigmatise. Vous voyez, aujourd'hui, les LGBT, etc., il n'est pas question de les repousser. Il n'est pas question non plus de les imiter. C'est comme Jésus, c'est-à-dire il faut les aimer, mais pas aimer le péché dans lequel ils sont. Et ça, c'est très difficile. Mais Christ a réussi à le faire. Et nous pouvons aussi, avec sa grâce. Ce Christ-là voulait montrer aux pharisiens que le salut n'est pas que pour les bien portants, mais pour les malades, pour les pécheurs, ceux qui ont besoin de médecins. Est-ce que nous tendons la main dans ce sens? Est-ce que dans notre attitude, nous sommes comme ce Christ? Enfin, il réagissait contre l'hypocrisie d'une société qui pratique en quelque sorte une sélection des péchés. Voyez-vous, l'Église catholique est très forte, parce qu'elle est plus vieille que l'Église évangélique, mais l'Église évangélique se terminerait comme l'Église catholique. L'Église catholique, en fait, elle a fait une sélection des péchés, des grands, des petits, des moyens. Dans le catéchisme catholique, vous avez toute une série. En plus, en face, il y a le purgatoire qui va vous sauver de tant d'années. Enfin bon, c'est très codé, quoi. Hein. Voilà. C'est tout. C'est simplement parce qu'il y a une sélection des péchés, des grands, des petits, machin, etc. Or, vous savez très bien, vous l'avez appris à l'école du dimanche, qu'un péché, c'est un péché. Qu'il soit grand, petit, il vous sépare de la présence de Dieu. Il n'y a que Jésus qui était sans péché et qui était en communion avec son Père. Mais nous, nous sommes pécheurs. Donc, que ce soit un grand ou un petit péché, nous sommes séparés. Séparés de Dieu. Bon, il n'est pas là, donc je peux en parler, Arnaud Rivalin. Mais moi, il m'a bluffé dans sa capacité à être ce superviseur général qu'il était, où il me remontait les difficultés dans l'Église, mais en même temps, toujours il accompagnait en disant « moi aussi je suis pécheur, moi aussi je ne veux pas juger, etc. » Mais il le faisait de manière systématique, non pas comme un refrain, mais il le pensait vraiment. Et ça, c'est quelqu'un effectivement sur lequel Dieu peut compter, en s'incluant comme étant pécheur, mais en restant sur la vérité qui est importante à relever pour que l'Église puisse être conduite dans la sainteté et dans la progression vers le bien. Aux yeux du Seigneur, face à la sainteté de Dieu, le pharisien était aussi marginal que le publicain ou la prostituée, et même davantage à cause de cet orgueil dont ils étaient imbus. Voilà, donc pour résumer ce matin sur ce Christ, on va voir la prochaine fois la spiritualité qui peut être déviante. Ce Christ qui aujourd'hui nous est révélé dans l'Écriture, c'est d'abord qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est dans son identité d'être le passé et le futur. Il a été, il est, il existe toujours, il est Dieu. La deuxième notion, c'est son faire, sa mission de rédemption, où dans cette mission, eh bien, il nous a rachetés du péché. Son rang, il est Seigneur. Et son exemple, fidélité, obéissance dans sa relation avec le Père. Ce Dieu est un. Il est trois, il est relationnel et il est origine de toute création. Et il est une habitation corporelle de toute la plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi quand nous nous adhérons à lui, quand nous collons à lui, quand nous devenons un avec lui, eh bien nous avons les mêmes attributs. Nous avons la résurrection, nous l'avons dès maintenant, donc on n'a pas besoin de l'attendre, sauf qu'elle va se manifester, si vous voulez. Voilà. Donc cette foi est une foi solide dans ce Christ, parce que nous nous attachons à lui. Nous avons une relation avec le Père, comme lui l'avait, parce que nous avons le même esprit qui nous a été donné, parce qu'il est celui qui baptise de l'esprit. Et nous avons cette capacité, dans certains cas, de prendre autorité sur les maladies, sur toute chose, en obéissance au Père, bien sûr. Donc ces miracles aussi, nous pouvons les faire, mais c'est toujours en obéissance parfaite avec ce que lui veut nous montrer. Et c'est dans ce sens-là que nous grandirons. Et pour moi, le modèle qui m'a beaucoup marqué, c'est John Wimber qui avait cette humilité et aussi cette puissance parce qu'il avait cette communion avec le Christ qu'il avait développé, que le Seigneur lui donnait grâce pour nous montrer dans notre situation contemporaine que ça peut encore exister. Donc soyons de ceux et celles qui nous appuyons sur un Christ, sur celui qui est one, non pas sur des faux Christs, des antichrists en plus, ou des Christs cosmiques, ou tout ce qu'on veut, qui aujourd'hui pullulent dans une société, mais le Christ qui est révélé dans l'Écriture, qui est loin de Dieu, et celui qui va nous donner la capacité de vivre notre vie chrétienne comme des disciples qui sommes fidèles à sa parole. Je vous invite à prier un instant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions, Seigneur, comprendre par les yeux de la foi qui tu es réellement, Seigneur, qui tu as été, qui tu es, qui tu seras d'éternité en éternité. Seigneur, donne-nous de te respecter tel que tu es comme Seigneur. Seigneur, tu as accompli ta mission à la croix comme serviteur, souffrant. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es glorifié à la droite du Père. Et nous voulons, Seigneur, avoir un respect pour qui tu es, afin que nous puissions pleinement développer notre vie chrétienne dans ce respect et dans l'usage de tous les privilèges que tu nous donnes, Seigneur, comme disciple. Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes cette foi saine qui vient de ta parole, de l'Écriture, et qui nous permet, Seigneur, d'être des témoins authentiques, Seigneur, qui glorifions ton nom. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.